Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce dimanche de Pentecôte, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes au chapitre 2. Dans le livre des Actes au chapitre 2, où nous voulons lire les versets 1 à 13. Acte 2, chapitre 2, Acte chapitre 2, versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin, « Le grand miracle de la Pentecôte. » Le grand miracle de la Pentecôte. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant. Le plan de Dieu pour le salut du monde. Nous retournons à Jérusalem, au jour de la Pentecôte. Ce matin-là, aux environs de 9h, et au lieu où tous les disciples étaient réunis, se tenaient, il vint soudainement du ciel un bruit de vent très puissant, très bruyant. Des langues de feu se posèrent sur chacun des disciples et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, tous ceux qui étaient à Jérusalem accoururent, ils entendirent les disciples parler des merveilles de Dieu. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, chacun les entendait dans sa propre langue. Un nombre impressionnant de langues diverses qui sont sous le ciel. « Que signifie cela » disait-il. « Ces gens sont peut-être pleins de vin doux. » L'apôtre Pierre leur dira, « C'est le jour. » C'est le jour où Dieu réalise la promesse de l'Esprit annoncée par les prophètes, confirmée par Jésus lui-même quand il disait aux disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Je vous enverrai le Consolateur de la part de mon Père, et il sera en vous, et il sera toujours avec vous. C'est un autre moi-même, l'Esprit de Dieu, de sainteté, de vie, de vérité. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Car si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous ferons notre demeure chez lui. Entendez ceci, Je m'en vais et je reviens vers vous. Avons-nous bien entendu? Je m'en vais et je reviens vers vous. Je vous dis ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Ainsi donc, chose promise, chose due. 10 jours après l'ascension, Dieu envoya du ciel l'Esprit qu'il avait promis et institua l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, son Fils, afin qu'elle vive désormais de la nouveauté de l'Esprit qui correspond à la nouvelle alliance proclamée d'avance par les Écritures. Mais pour mieux comprendre la signification profonde de la Pentecôte, il faut revenir en arrière à Babel. À cette époque, tous les hommes parlaient la même langue. Ainsi unis, ils se croyaient forts, et dans leur cœur pécheur, impies et impénitents, remplis d'orgueil et d'arrogance envers Dieu, ils se soulevèrent contre leur Créateur et voulurent s'élever jusqu'à lui et s'asseoir sur son trône et le destituer. Mais Dieu les jugea, confondit leur langage unique et les dissémina sur toute la terre. Ce fut la confusion générale et surtout le chaos spirituel. Car non seulement ils ne se comprenaient plus entre eux, mais par-dessus tout, et cela est une question de vie et de mort spirituelle, ils n'entendaient plus la voix de Dieu, puisque plus personne ne pouvait les instruire et les conduire selon Dieu. Chacun donc suivait sa propre voie. C'est ici le jugement de Babel. Terrible jugement mortel, car Dieu ne parle plus. Et s'il parle encore, on ne l'entend plus. Même si on a des oreilles, on ne le voit plus, même si on a des yeux. Car il se cache à notre regard, on ne le comprend plus, même si on a un cœur, car il ne se révèle plus à notre esprit, puisque nous sommes loin de lui, dans les ténèbres du péché et de la mort. En effet, en ce qui concerne la parole de Dieu, les hommes ne disposaient plus de la possibilité de témoigner de Dieu à leur prochain. Comme nous venons de l'indiquer, car en ceci réside précisément le jugement de Dieu, la famine spirituelle, c'est-à-dire le dessèchement progressif de l'âme jusqu'au flétrissement fatal et définitif. D'ailleurs, cette sanction tomba également sur Israël, selon qu'il est écrit dans le prophète Amos, « Vous courrez d'une mer à l'autre pour chercher la parole, mais vous ne la trouverez pas. Car voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, pardon, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif, de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Ce châtiment infligé à Israël s'appliquait donc déjà aux nations qui rejetèrent Dieu. C'est pourquoi il y avait au milieu de ces peuples une grande famine spirituelle, une faim et une soif de la parole de Dieu, mais elle se faisait rare, extrêmement rare, et par conséquent une multitude d'hommes et de femmes moururent dans leur péché, loin de la face de Dieu, parce que Dieu ne parlait plus et que les gens n'entendaient plus. C'est ici le jugement de Babel. Quand les hommes refusent d'écouter sa voix, alors Dieu se tait. Et cela est synonyme de mort spirituelle, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si l'on n'entend plus, alors la foi qui sauve n'est plus possible. Quelle tragédie! Dès lors, cette humanité sans Dieu, rejetée par Dieu, éloignée de Dieu, devint des nations, des peuples, des tribus, des langues, bref, des gens qu'on appelle païens, parmi lesquels nous sommes aussi. C'est-à-dire des gens idolâtres, car ils se vouèrent à d'autres dieux, adorant et servant toutes sortes d'idoles inventées et fabriquées par eux. Toutefois, la promesse du salut subsista, car la promesse ne peut être anéantie puisqu'elle est accompagnée d'un serment irrévocable. Mais voici, nous trouvons encore une fois un de ces mais extrêmement merveilleux. Mais voici, ceux-là je les aime, vous aussi, vous les aimez? Mais voici qu'au jour de Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Christ, à Jérusalem même, Dieu enlève ce jugement sur les nations païennes par le fait que chacun peut à nouveau entendre la parole de Dieu dans sa propre langue. Le Seigneur révèle ainsi au monde entier que l'Esprit est pour tous ceux qui s'approchent de Dieu, qui mangent le pain qui est descendu du ciel et qui boivent de l'eau vive que Jésus donne. Alors des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein jusque dans la vie éternelle, comme le dit l'Écriture. Et l'apôtre Pierre, dans son discours inspiré par l'Esprit, dira à la foule réunie en ce jour à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse divine au sujet du salut, salut qui vous a été acquis par Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a déclaré Seigneur et Christ, c'est-à-dire Seigneur et Messie, Seigneur et Sauveur, et l'a fait asseoir sur son trône, justement là où les nations voulaient aller. Et comme ils avaient le cœur vivement touché, il leur annonça la bonne nouvelle du salut, le pardon des péchés par la repentance et la foi, et la vie nouvelle par la puissance de l'Esprit, selon la promesse des Écritures. Ce jour-là, une foule se convertit et se fit baptiser, et le nombre des disciples augmenta de 3,5 en ce jour-là. Pardon ? Alors, et le nombre des disciples augmenta de 3,000 âmes en ce jour-là. Dès lors, on comprend beaucoup mieux pourquoi Jésus disait au début de son ministère, heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, car ils seront désaltérés. Ils ne seront plus affamés ni assoiffés spirituellement parlant, puisque maintenant le jugement de Babel est annulé une fois pour toutes. Mais il y a un autre mais, un de ces mais que j'aime pas du tout. Mais il sera annulé, en effet, pour les païens, mais il sera mis à exécution pour Israël, selon la prophétie d'Amos le berger que nous venons de citer. Et pourquoi ? Parce que tel est le plan de Dieu pour le salut du monde. Paul confirme, Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché afin de faire miséricorde à tous. Comprenons, pendant que Dieu faisait miséricorde à Israël, il a endurci les païens. Et maintenant, pendant qu'il fait miséricorde aux païens des nations, il endurcit Israël. Et comme il a fait miséricorde aux païens, il fera aussi miséricorde à Israël, au jour où Jésus reviendra. Ici, pour mieux comprendre le plan de Dieu pour le salut du monde, et en même temps, pour mieux comprendre le chemin qui mène au salut, il faut compléter certains éléments. La façon d'agir de Dieu envers les hommes est toujours la même. Et quelle est-elle? Il parle, donne ses instructions, fait alliance avec l'homme sur la base de sa parole, conformément à son être personnel. Ainsi, dans son amour et dans sa grâce, il promet la vie à l'homme, la vie qui vient de Dieu s'il marche selon les clauses de l'alliance. Si l'homme brise cette alliance pour aller son propre chemin, alors la loi de l'alliance le jugera en accord avec la sainte justice de Dieu qui a dit « Le salaire du péché, c'est 3 millions de dollars. » Non, le salaire du péché, c'est la mort. Alors regardons ce qui s'est passé dans l'histoire. Dieu a fait alliance avec Adam. Mais Adam a rompu cette alliance. Le jugement a été rendu, la sentence est tombée, Adam et Ève ont été chassés loin de Dieu. Dès lors, selon la liberté que Dieu donne ou que Dieu avait donnée à l'homme, chaque être humain choisit son camp. Caïn choisit, Abel choisit, Noé et ainsi de suite. À l'époque de Noé, les hommes étaient devenus tellement mauvais et méchants que Dieu décida de les exterminer, et pour cela il envoya le déluge. Mais sauva Noé et sa famille dans une arche qui flottait sur les eaux du jugement. Dans une arche qui flottait sur les eaux du jugement. Alors sorti de l'arche, Dieu fit encore alliance avec Noé. Mais plus tard, les hommes, comme autrefois, endurcirent leur cœur, se soulevèrent contre Dieu et voulurent s'élever jusqu'à lui, mais Dieu les jugea et envoya un terrible jugement, le jugement de Babel, comme nous venons de le voir. Alors Dieu appela Abraham, ce qui veut dire père élevé. Il lui donna le nom d'Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude. Il fit alliance avec lui, avec ses descendants, en disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta descendance. » Israël, héritier de cette même promesse, a dû descendre en Égypte. Puis il fut miraculeusement délivré du pays de la servitude. Par Moïse, Dieu lui donna la loi. Cette loi était fondée sur le sacerdoce lévitique, afin de donner aux transgresseurs l'assurance du pardon de leurs péchés. Mais Israël, à l'instar des nations, subjugué par le péché, asservi par le diable, se rendit coupable devant Dieu. Il se détourna de la loi, s'éloigna de Dieu, devint ingrat et rebelle, et comble de son impiété, les hommes tuèrent les prophètes et crucifièrent le Christ. Alors Dieu les jugea et les dissémina sur la face de la terre parmi les nations. Remarquez, frères et sœurs, quand les nations étaient sous le coup du jugement de Dieu, c'est Israël qui était témoin de Dieu. Et maintenant que c'est Israël qui est sous le coup du jugement de Dieu, ce sont les nations qui témoignent de Dieu à Israël. N'oublions pas, malgré les apparences, il y eut de tout temps un reste fidèle au Seigneur, tant chez les nations que chez Israël. Le cycle du plan de Dieu est bientôt terminé. Le grand jour de l'Éternel va paraître, le jugement dernier sera rendu, et les hommes iront les uns à la vie éternelle et les autres à la ruine éternelle. Maintenant, nous allons faire un pas de plus dans la direction de la réponse à notre question. Mais d'abord, Considérons encore une fois la façon d'agir de Dieu et résumons-la. Dieu parle, instruit l'homme, fait alliance avec lui, mais s'il brise cette alliance, Dieu le juge et le condamne à la mort. N'est-ce pas un peu arbitraire, autoritaire? Non. Car il faut prendre en compte l'offre de salut de Dieu, salut que Dieu propose dans son amour, selon sa promesse, à tous les hommes, sans condition aucune. Car il faut le dire et le redire, Dieu, dans les clauses de l'Alliance, n'a pas seulement prévu le châtiment en cas de transgression de la loi, mais en donnant la loi, ou plutôt, longtemps avant de donner la loi, il avait fondé cette loi sur le sacerdoce lévitique, comme je l'ai déjà mentionné, afin de donner une espérance salutaire aux pécheurs et l'assurance de son pardon. Frères et sœurs, ce que l'Écriture veut nous dire, c'est que Dieu, connaissant toutes choses, avait déjà prévu, dès avant la fondation du monde, une victime expiatoire pour nos péchés, Jésus, son Fils. Ce qui sera préfiguré par le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert et par le sacrifice d'Isaac par Abraham sur le mont Morija. Et tout au long de notre histoire du salut, du début à la fin, Dieu n'a pas manqué de proclamer haut et fort, d'une manière si claire, si nette, que le seul moyen d'échapper au jugement est d'écouter sa voix et de croire en sa promesse, selon laquelle il affirme que le juste vivra par la foi. Et cela a été rappelé, signifié, imagé, enseigné de telle façon que cette leçon de salut devint l'évidence même pour tous, l'essence même de la prédication de Dieu par la bouche de ses prophètes et par la bouche du Fils lui-même. En effet, au jour de la chute, Dieu sacrifia des animaux. Pour couvrir la nudité de nos premiers parents, le sang coula et ce sang préfigurait celui du Fils qui allait venir. Puis les hommes, instruits par nos ancêtres, offrirent à Dieu des sacrifices sanglants, implorant la grâce et le pardon de Dieu pour leurs péchés. Ainsi Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, et puis sous la direction de Moïse et au travers du sacerdoce lévitique, Israël offrit des milliers et des milliers de sacrifices sanglants d'une agréable odeur à l'Éternel. Et tous ces sacrifices pointaient du doigt vers le seul vrai sacrifice, celui de Christ. Et puis enfin, quand les temps furent accomplis, Jésus, le Fils de Dieu lui-même, en tant que l'agneau de Dieu, l'agneau divin et humain, le Christ, en tant que le Messie sauveur, vint sur la terre et offrit en sa personne ineffable le seul et unique sacrifice sanglant d'une agréable odeur à l'Éternel, sacrifice qui ôta le péché du monde. Et au fur et à mesure que le temps passait, et ce n'est pas la moindre des choses, Dieu ajoutait page après page à sa parole, jusqu'à ce qu'elle soit complète et parfaite, afin que les hommes puissent s'y référer en tout temps et en toute chose. En un mot commençant, tous les hommes de Dieu, Abel, Enoch, Noé, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et tous les croyants fidèles, Moïse et tous les prophètes, et tous les témoins de tous les temps, nous y compris, ont abondamment proclamé la justice de Dieu et a annoncé sa parole de telle sorte que personne n'a d'excuse. Et heureusement, Paul confirmera. Ils sont donc... Amen. Par conséquent, non. Dieu n'est pas arbitraire quand il juge, car il n'a pas laissé l'homme sans ressources, ni secours. Dans tous les temps, pour tous les hommes, le chemin du salut était bien indiqué, et nul, s'il voulait être sincère et sérieux, ne pouvait le manquer s'il cherchait Dieu de tout son cœur. Car Dieu lui-même avait promis, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouvé. Et cela est valable encore aujourd'hui, plus que jamais. Nous résumons jusqu'ici et nous reformulons la question. Dieu se révèle. Il parle et fait alliance avec les hommes. Dans les clauses de l'alliance que les deux parties s'engagent à respecter, il y a la loi, les instructions de Dieu, l'indication du châtiment auquel l'homme s'expose s'il transgresse la loi, mais aussi le moyen de salut pour le pécheur repentant. Nous posons donc encore une fois la question. Pourquoi ? Au-delà des éléments que nous ne comprenons pas ou que nous n'avons pas le temps d'aborder, oui, pourquoi Dieu agit-il de la sorte, c'est-à-dire en parlant, en sauvant ceux qui écoutent et en jugeant et condamnant ceux qui n'écoutent pas. N'est-ce pas un peu fort ? N'est-ce pas un peu injuste ? Oui, pourquoi ? Parce que la parole qui vient de Dieu est le seul moyen de salut par lequel l'homme peut être sauvé sans discrimination aucune. Et pourquoi la loi ? Et pourquoi la foi ne viendrait-elle que de la parole ? Parce qu'il est écrit. Et quand Dieu écrit quelque chose, s'il vous plaît, c'est écrit. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu, afin que le juste vive par la foi. Et Jésus confirmera, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie qui est en Dieu. Toute autre chose, image, dessin, vision, enseignement de la sagesse du monde, bref, tout ce qui n'est qu'humain est inadéquat, inapte à procurer le salut. Mais pourquoi ? Parce que seule la parole spirituelle de Dieu, vivante et permanente, est capable de communiquer avec l'esprit de l'homme qui est un être spirituel. Le régénérer et le conduire dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et cela sans aliéner sa liberté et sans altérer sa responsabilité. Ainsi Dieu, dans sa souveraineté absolue, sauve l'homme par la foi sans le forcer, sans l'obliger, sans le briser, lui laissant sa pleine liberté et son entière responsabilité. Mais comment cela se fait-il alors ? Eh bien, par la foi. Et la foi est irruption du divin dans l'humain. J'aimerais vous avertir que ça va dépasser un tout petit peu 11 heures. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord, je suis prêt à m'arrêter dans 5 minutes. Mais il faut me le dire. Vous êtes d'accord ? Merci, c'est gentil. Si le cœur de l'homme n'a pas été jugé et endurci par le Seigneur, alors il entend avec ses oreilles. Il voit avec les yeux du cœur. Il comprend ses paroles par son esprit que Dieu éclaire. Et librement, en toute connaissance de cause, et sous sa propre responsabilité, il entreprend ce que Dieu ordonne, car il a fait son choix. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Ainsi, par la parole qui peut tout, et sans laquelle rien ne se fait, le croyant participe à la nature humaine, à la nature divine de Jésus, en étant une nouvelle création, puisque l'ancienne est corrompue par le péché. Son être adamique est remplacé par l'être christique, par la foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Ici, la parole de Jésus au sujet des terrains nous vient en aide. Seul le cœur, qui a été labouré profond, qui a été bien préparé, recevra en lui la semence. Et cette semence, qui est la parole, qui est Jésus et sa parole, lui feront comprendre son état de pécheur coupable, la possibilité qu'il a de saisir la vie qui lui est proposée en Christ, et par l'esprit auquel il se soumet, il sera régénéré et portera du fruit pour Dieu. Les autres terrains, les terrains caillouteux, épineux, ne portèrent pas de fruits, car la foi dans leur cas et dans leur cœur ne parvint pas à maturité. Elle resta superficielle, elle ne fit pas de racines, et faute de nourriture spirituelle, elle mourut. Le terrain dur, dur comme un chemin, et le cœur endurci par le péché. En effet, à force de pécher, et de pécher encore, le cœur de l'homme devient dur comme un chemin, sur lequel on marche et marche encore, à tel point qu'il s'endurcit et s'endurcit encore, jusqu'à être inculte, impropre à recevoir la semence divine. Alors, sans Dieu, éloigné de Dieu et de sa parole, il meurt. Et même le diable vient enlever la semence qui reste, qui a débordé du champ sur le chemin. Le diable, oup, il se dépêche, il faut surtout pas que celui-là se convertisse. Et hop, il enlève la semence. Dieu donc n'a ni appât, ni filet, ni force contraignante, ni préjugé, ni préféré, ni condition, ni restriction, ni distinction d'aucune sorte. De plus, il n'a même pas l'obligation de nous sauver. Nullement. Mais il parle. Ah, il parle. Il laisse agir sa parole en donnant aux hommes toutes les instructions utiles et nécessaires. Puis lorsque quelqu'un ouvre son cœur, Jésus entre chez lui, soupe avec lui et lui avec Jésus. Et voici ce qui se produit dans cette communion ou dans cette commune union. Quand Dieu parle et que l'homme écoute, un miracle incompréhensible à notre intelligence se réalise. C'est ici le mystère de la foi. Permettez-moi d'illustrer cela. Dans le domaine naturel, l'homme engendre, la femme enfante, et la vie est transmise par la semence. Et l'enfant qui naîtra portera la marque et du père et de la mère. Dans le domaine spirituel, Dieu nous engendre en Jésus-Christ dès avant la fondation du monde. Jésus nous enfante à la croix. Et la vie nous est transmise par l'Esprit qui nous régénère au jour où nous croyons. Et l'enfant qui naîtra de cette union du divin avec l'humain s'appelle la foi. Ou si vous voulez, l'obéissance de la foi. Et cette obéissance portera les empreintes et du divin et de l'humain. Et du divin et de l'humain. Si elle n'a pas ces deux éléments, elle n'est pas la vraie obéissance qui sauve. Voici le grand miracle de la Pentecôte. Pour tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Car Pentecôte, c'est la fête des moissons, et nous sommes la moisson du Seigneur avec les 3000 de la Pentecôte et avec tous les élus de tous les temps. Et au grand jour de la résurrection, Jésus rassemblera sa moisson dans ses greniers. Mais c'est aussi le jour de la grande délivrance, où les enfants de Dieu entrent dans la glorieuse liberté de Christ pour marcher libres de tout péché, de toute servitude, car le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous reflétons donc la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Waouh ! C'est ici, je répète, le grand miracle de la Pentecôte. Oui, béni soit Dieu de nous avoir parlé par le Fils, qui a fait de nous des enfants par l'esprit d'adoption, et nous crions Amen. Abba Père. Alléluia. Amen. La réponse à notre question peut se résumer ainsi. Le droit de Dieu le plus strict, c'est de parler. Le devoir de l'homme le plus strict, c'est d'écouter. Encore quelques précisions et nous arriverons à la fin. Quand Dieu juge, ce n'est pas d'abord pour condamner, mais c'est pour avertir les hommes du danger de l'incrédulité qui les conduit à l'apostasie. Et cette apostasie à la mort. En effet, toute l'histoire du salut que nous venons de survoler très brièvement nous révèle un Dieu juste et saint, sans compromis avec le mal. C'est pourquoi ce mal doit être jugé et condamné. Et il l'a été à la croix de Christ. Par conséquent, celui qui s'approche de Dieu en vue du salut, qui écoute sa parole, qui reçoit ses instructions et les comprend, doit admettre le jugement de Dieu sur sa corruption. Il doit accepter le verdict de Dieu sur sa culpabilité. Alors, et alors seulement, conscient de son état, à l'exemple du fils cadet de la parabole, il rentrera en lui-même, se repentira, se lèvera, ira à la rencontre de Dieu et lui dira « Mon Dieu, j'ai péché, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, je ne mérite que la perdition éternelle. » Mais Dieu, plein de joie, dans sa grâce immense et dans son amour incomparable, lui dira « Jésus est mort pour toi. » Reçois son pardon et son salut. Sois mon enfant bien-aimé. Puis viens et réjouis-toi. Faisons la fête, car j'ai tué le veau gras. C'est ainsi qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent et qui a écouté la parole de Dieu que pour 99 autres qui n'écoutent pas et qui ne pensent pas avoir besoin de repentance. Je vous dis, frères et sœurs, c'est une terrible tragédie, une question de vie ou de mort spirituelle. Quand Dieu juge et condamne, il ne le fait pas à la légère. On l'a vu, il avertit maintes et maintes fois avant de rendre son jugement définitif. C'est seulement lorsque l'homme s'endurcit dans son péché, au-delà de tout, de toute mesure, jusqu'à atteindre le point de non-retour, que Dieu, en dépit de tout, endurcit lui-même le cœur de l'homme. Ça devient extrêmement sérieux et extrêmement grave. Il finit par l'empêcher d'entendre et de comprendre encore sa parole et le condamne à la mort éternelle par son refus obstiné d'écouter Dieu. Car il refuse à Dieu son droit de parler, son droit de parole, et rejette sa propre responsabilité, celle d'écouter Dieu. Et Jésus devra dire à ses disciples, il en est ainsi pour Israël et pour tous les autres. Ils ont des oreilles et n'entendent pas, des yeux, ils ne voient pas, un cœur et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il peut y avoir beaucoup de choses terribles dans le monde, mais rien n'est plus terrible que ce jugement de Babel. Alors, selon l'Écriture, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant et au chapitre 2, c'est pourquoi. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? La conclusion s'impose d'elle-même. La Pentecôte est en même temps une bénédiction et en même temps une malédiction. C'est le mont Garizim et le mont Ebal de la prophétie de Moïse. En effet, quand on entend la parole de Dieu, quand on la comprend et l'on reçoit par l'Esprit descendu du ciel à la Pentecôte, la capacité de l'assimiler, de la digérer et par-delà de discerner la volonté de Dieu et de la mettre en pratique pour notre salut, alors c'est une bénédiction, une immense bénédiction de vie et de vie éternelle. Et c'est ici la preuve que l'Esprit agit en nous par la parole et nous portons son fruit par la foi et pour la gloire de Dieu. Mais quand on a des oreilles et qu'on n'entend pas, des yeux qu'on ne voit pas, un cœur et qu'on ne comprend pas, des pieds et qu'on ne marche pas dans le bon chemin, des mains et qu'on ne fait pas les bonnes œuvres qui nous sont destinées, une bouche et qu'on ne confesse pas le beau nom de Jésus, bref, qu'on est encore et toujours dans les ténèbres du péché, assujetti au mal, incrédule et impénitent, délibérément, refusant et la croix et la grâce, méprisant le sang de l'Alliance, bafouant la parole de Dieu du Fils, la parole du Fils. Alors oui, c'est ici la preuve que malgré le langage clair de Dieu, accessible à notre entendement, on est sous le jugement de la malédiction de Dieu, le jugement de Babel. Car le principe est le suivant. Aussi longtemps qu'on comprend ce qui est dit, c'est l'espérance de la vie et du salut en Jésus, dans la mesure où on obéit. Mais dès qu'on ne comprend plus ce qui est dit, c'est déjà le signe qu'on est frappé par le jugement de Dieu. C'est la famine spirituelle qui conduit à la mort spirituelle. Je précise, la parole de Dieu est en même temps salut, vie éternelle, gloire et victoire, mais elle est aussi en même temps clé du jugement pour le juge suprême au tribunal divin. Et autorité dernière pour statuer sur la destinée de tous les hommes. Car Jésus, c'est lui qui a les clés de la vie et de la mort. Et Jésus, c'est lui la parole. Je termine enfin. C'est pourquoi nous négligeons pas un si grand salut. Profitons de l'occasion que Dieu nous donne d'entendre sa parole. Mettons à profit le temps qui nous reste pour faire diligence, obéir avec intelligence et bénir et louer Dieu pour sa grande miséricorde et pour le fait qu'il parle encore. Merci Dieu que tu parles encore et que nous sommes encore capables, pardon, d'entendre. Mais oui, un dernier mot. Le droit de Dieu le plus strict, c'est de parler. Le devoir de l'homme le plus strict, c'est d'obéir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.